France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un journal largement consacré à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Iran, mais le président américain ne veut pas forcément renverser le régime. Dans ce journal, nous ferons le point à Washington et nous irons en Turquie à la rencontre d'Iraniens qui ont fui leur pays. Le régime des Mollahs tient toujours, malgré des manifestations de joie après la mort du guide suprême Khamenei. Enfin, nous verrons que les prix du gaz se sont envolés depuis ce week-end, conséquence de l'arrêt de la production au Qatar. L'actualité ce soir, c'est aussi la nouvelle doctrine nucléaire française exposée par Emmanuel Macron. Doctrine élargie à 8 pays européens, mais la France gardera la main pour déclencher le feu nucléaire, assure le chef de l'État. Emmanuel Macron qui annonce aussi un renforcement de l'arsenal français. Cela fait 3 jours aujourd'hui que les Américains et les Israéliens pilonnent le régime iranien au risque d'embraser tout le Moyen-Orient. En Iran, le Croissant Rouge a annoncé un premier bilan, 555 morts depuis samedi. Et le régime des Mollahs s'est préparé à une longue guerre, contrairement aux États-Unis. C'est ce qu'affirme Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Téhéran est ce soir une ville désertée de ses habitants, d'autant plus qu'un certain nombre d'Iraniens ont quitté le pays par la voie terrestre et beaucoup ont rejoint la Turquie, qui partage une frontière de 500 km avec l'Iran. Nos envoyés spéciaux Timur Özturk et Eric Audra se trouvent au poste frontière de Kapıköy, côté turc. Les Iraniens qu'ils ont rencontrés racontent un pays où le régime des Mollahs tient toujours, malgré des scènes de liesse à la mort du guide suprême Ali Khamenei. On écoute leur reportage.
Amir semble un peu perdu. Il vient de traverser la frontière, consulte son téléphone, négocie un prix avec des chauffeurs de taxi pour aller à l'aéroport le plus proche. Il vient de quitter la capitale iranienne.
Là où j'étais à Téhéran, j'entendais beaucoup de bombardements, au moins 4 ou 5 par jour.
Amir a pris un bus à Téhéran, parcouru plus de 800 km pour se rendre en Turquie. Durant son périple, il a vu un régime qui se maintient malgré les frappes.
Il n'y a pas de pénurie de nourriture ou dans les services publics. Le gouvernement est puissant. Je dirais que tout reste sous le contrôle du gouvernement.
Un peu plus loin, Ali tire sa valise. Lui aussi vient de Téhéran et dit ne pas avoir vu de manifestation depuis le début de la guerre.
Tout le monde reste chez soi. Mais certains crient à leur fenêtre des slogans comme « Mort à Khamenei » et « Faites la mort de Khamenei », mais il n'y a personne dans les rues.
Ali ne sait pas comment la situation peut évoluer.
J'étais là-bas le premier jour de la guerre. On pouvait entendre les bombardements des avions de chasse. Tout était chaotique. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que le régime tue des gens. Et que les États-Unis et Israël tuent aussi des gens.
Une Iranienne originaire de la ville de Tabriz charge son sac dans un minibus. Juste avant de partir, elle nous confie son désarroi.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'en ai aucune idée. Aucune.
À la frontière de Kapıköy, ces Iraniens laissent derrière eux leur pays, plongé dans la guerre et l'incertitude.
Voilà pour ce reportage de Timur Özturk et Eric Audra, envoyés spéciaux de Radio France dans l'est de la Turquie à la frontière iranienne. Alors quels sont les objectifs de guerre américains dans cette offensive? Donald Trump n'a pas tenu de conférence de presse ce week-end. Il choisit pour l'instant les médias auxquels il s'adresse. Ainsi, dans une interview au quotidien conservateur le New York Post, le président américain se dit prêt à envoyer des troupes au sol en Iran si nécessaire, mais il semble exclure pour l'instant un renversement du régime des Mollahs. Son ministre de la Défense, Pete Hegseth, a tenu, lui, une conférence de presse en début d'après-midi. Le chef du Pentagone, plutôt avare de détails sur la stratégie américaine, Franck Madvon.
Les militaires ont maintenant l'habitude des prises de parole de Pete Hegseth, offensives, défiants.
We are not defenders anymore. We are warriors.
Nous ne sommes plus des défenseurs, nous sommes des guerriers. Le ministre de la guerre, comme il se fait appeler désormais, demande aux soldats américains de la détermination, de la discipline. Oui, il y aura des pertes, mais la cause est juste. L'Iran ne doit pas pouvoir menacer les États-Unis ou leurs alliés. Voilà le message. Et Pete Hegseth ajoute que l'opération n'a rien à voir avec l'Irak en 2003.
This is not Iraq. This is not endless.
Ce ne sera pas une guerre sans fin, précise-t-il. Pas de règles d'engagement stupides, pas de bourbier de reconstruction nationale, pas d'exercice de construction de démocratie, pas de guerre politiquement correcte. En clair, on se bat pour gagner, ajoute Hegseth. et il ne se donne pas de limites.
Nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains, mais nous ne sommes pas stupides. On n'a pas besoin de mobiliser 200 000 hommes et de rester sur place pendant 20 ans.
Pitexès confirme qu'il n'y a pas de troupes au sol en Iran, mais n'exclut rien et ne fixe aucune durée pour les opérations en cours. Annoncer, dit-il, ce que nous sommes prêts à faire ou non, c'est de la stupidité.
Franck Madvon, correspondant de France Culture à Washington. Face à la puissance de feu américaine et israélienne, quelles sont les capacités de riposte de l'Iran? Les Iraniens ont déjà lancé des dizaines de missiles sur Israël et les pays du Golfe. Boris Loumaine, le régime des Mollahs va-t-il pouvoir continuer à ce rythme?
Alors, d'après de nombreux experts militaires, l'Iran a encore de quoi voir venir. En clair, le pays disposerait à minima encore de plusieurs centaines de missiles balistiques, des missiles de courte et de moyenne portée, qui devrait lui permettre de frapper Israël et les pays du Golfe pendant encore quelques semaines. Alors, les chiffres sont à prendre avec précaution, mais d'après les estimations, Téhéran posséderait encore entre 1500 et 2000 missiles. Certains ont une portée de près de 2000 kilomètres. Ces missiles, il faut les faire décoller, ça c'est le rôle des lanceurs. L'Iran en aurait une centaine et ces lanceurs sont l'une des cibles prioritaires des armées américaines et israéliennes ces derniers jours. Quant aux drones, les Shahed, le pays peut en produire plus d'une cinquantaine par jour et il en aurait plusieurs milliers en réserve. Ces stocks encore importants, donc l'Iran a pu les reconstituer ces derniers mois après un coup porté à son arsenal. C'était l'opération israélienne Rising Lion en juin dernier. Tsahal avait alors détruit la moitié des stocks de missiles iraniens.
Ces drones et ces missiles, c'est le point fort de l'arsenal iranien parce qu'en dehors de cela, Boris, l'équipement militaire iranien est vieillissant.
Oui, et notamment la flotte d'avions de combat, elle en possède un peu plus de 200, mais la moitié d'entre eux sont hors d'âge. Leur technologie est obsolète, certains datent des années 90, voire même des années 80. Ils ne font clairement pas le poids face aux avions de chasse américains et israéliens. Et par ailleurs, plusieurs avions de combat iraniens auraient été détruits par les frappes américaines ce week-end. Quant à la marine iranienne, là encore, elle est vieillissante et peu développée, environ une trentaine de sous-marins et quelques dizaines de navires qui ont d'ailleurs été visés ces dernières heures. 9 d'entre eux auraient été coulés par l'armée américaine, d'après Donald Trump.
Merci Boris Loumagne. Dans cette guerre, l'Iran peut compter sur le soutien du Hezbollah libanais pour la première fois depuis le cessez-le-feu au Liban. Il y a près d'un an et demi, la milice a lancé la nuit dernière des drones et des roquettes sur le nord d'Israël sans causer de dégâts. Mais cela replace les Israéliens sous la menace de ces projectiles. Les habitants du nord de l'État hébreu réapprennent donc à vivre, à porter de tir du Hezbollah, comme l'ont constaté les envoyés spéciaux de Radio France dans la ville de Haïfa, Agathe Mahuet, Jérémy Thuile et Alexandra Vardy.
Ce n'est pas la foule sur le marché, au stand d'Ilan où le soleil chauffe les barquettes de fraises. Il assure ne voir qu'un tiers de ses clients depuis ce matin. C'est à cause de la guerre, dit-il, mais ce n'est pas grave. Qu'il continue jusqu'au bout. Nous, on peut tenir sans trop de clients, même pendant 2 mois s'il le faut.
Bibi, don't stop. Do the job.
Et Ilan demande à Netanyahou de faire son boulot, en Iran comme au Liban. Cette dame de 70 ans pourtant a peur. Avec son petit chien, elle vient de passer les 3 dernières nuits dans l'abri du marché, car son immeuble à elle est trop ancien, vulnérable face aux projectiles. Elle dit qu'elle y restera jusqu'à ce que ça se termine. La vie continue malgré tout, disent plusieurs habitants d'Haïfa, mais difficile de trouver quoi que ce soit d'ouvert aujourd'hui. L'employeur d'Ifat, qui a 31 ans, lui a dit de ne pas venir travailler jusqu'à nouvel ordre à cause de la possible riposte du Hezbollah ou de l'Iran. Elle dit qu'attaquer Téhéran était sans doute ce qu'il fallait faire, notamment pour aider le peuple iranien, mais que c'est difficile, en tant qu'Israélienne, d'avoir aujourd'hui à en payer le prix.
Reportage Agathe Mahuet à Haïfa, dans le nord d'Israël. L'offensive militaire contre l'Iran a bien sûr des répercussions sur le marché énergétique très dépendant des hydrocarbures produits dans la zone de conflit. Le prix du gaz européen a ainsi bondi de plus de 50% aujourd'hui, conséquence immédiate d'une attaque de drones iraniens sur les installations gazières au Qatar. La compagnie publique Qatar Energy a dû interrompre sa production de GNL, le gaz naturel liquéfié. Les explications de Marine Corbel.
Pour la France, le Qatar n'est qu'un fournisseur marginal de gaz. C'est plutôt la Norvège, les États-Unis, l'Algérie ou encore dans une certaine mesure la Russie qui fournit les pays européens. Mais cet arrêt de la production et le blocage du détroit d'Hormuz provoquent un risque de pénurie et donc une hausse des prix que certaines entreprises verront sur leurs factures, et ce jusqu'en Europe. Nicolas de Varenne est le président de l'Uniden. Il représente les industriels français les plus consommateurs de gaz. Il s'attend à quelques mois difficiles.
Il y a une durée de propagation du cycle. Donc les hausses instantanées, elles vont se propager probablement sur un mois ou deux. Donc les prix vont peut-être continuer à monter un peu sur un ou deux mois. Si le conflit effectivement s'interrompt, ou en tout cas la liberté de circulation rétablie dans le détroit d'Hormuz, que la production reprend, on peut considérer que les prix vont avoir tendance à plafonner, mais on peut quand même considérer que le mois à venir va être tendu en termes de prix.
Par ailleurs, les marchés américains et chinois ne voient pas, eux, le prix du gaz flamber comme les Européens. Pour Thierry Brosse, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions liées à l'énergie, c'est bien la politique énergétique européenne qui est à remettre en question.
L'Union européenne, au début de la guerre en Ukraine, quand elle a compris qu'il y avait un problème sur le gaz, elle a changé la réglementation en demandant à ce que ces stocks soient remplis à l'ordre de 90% au minimum avant le début de l'hiver. C'était ça la règle. Et en 2025, je ne m'explique pas pourquoi, l'Union européenne a décidé qu'on pouvait baisser cette obligation de stockage et la passer à 80%.
Aujourd'hui, les réserves en France sont à 30% et ce alors que l'hiver n'est pas terminé. Ce qui protège encore les industriels français et les autres gros consommateurs, c'est la signature de contrats de long terme à prix fixe. Mais ça a ses limites. Tout dépendra de combien de temps dure le blocage. S'il s'étale, tous les consommateurs paieront la facture à un moment ou à un autre.
Marine Corbel, et dans une moindre mesure, le pétrole aussi augmente. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui fait référence sur le marché, est en hausse de plus de 13% ce soir. Il dépasse les 82$ contre 61 en début d'année. Emmanuel Macron parle d'une évolution majeure de la doctrine française en matière de dissuasion nucléaire. Depuis la base de l'île Longue dans le Finistère, le chef de l'État a exposé les détails de cette nouvelle doctrine élargie à 8 pays européens. La France va renforcer son arsenal nucléaire et c'est elle qui décidera en dernier ressort d'utiliser ou non l'arme atomique. On écoute Emmanuel Macron.
Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerai la dissuasion avancée. Je préfère le dire tout de suite, il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve, et qu'elle conservera à l'avenir, son pouvoir de destruction assuré. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant.
Emmanuel Macron depuis la base de l'île Longue. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Stanislas.
Spécialiste des questions de défense à la rédaction internationale de Radio France. Éric, même si la France se gardera la main sur la décision finale d'ouvrir le feu nucléaire, l'ouverture de la dissuasion française à 8 pays européens est effectivement une évolution majeure.
Oui, la doctrine d'emploi élaborée par Emmanuel Macron évoque désormais une dissuasion avancée, autrement dit construite de concert avec des alliés européens, avec les Britanniques et les Allemands tout d'abord, avec qui des groupes de pilotage commun sont déjà en place, mais également avec la Pologne, avec la Belgique, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Grèce, avec qui les discussions ont déjà commencé. Alors ça ne veut pas dire que la France se propose de distribuer ses ogives nucléaires à ces pays-là, mais qu'une participation européenne aux exercices de mise en œuvre de l'arme nucléaire française sont désormais envisagées. Concrètement, ça veut dire une participation d'avions de chasse européens de ces pays-là à l'organisation des exercices de raids nucléaires, ces exercices qui vise à tirer un missile depuis un rafale dans un environnement contesté. Il faut à ce rafale des ailiers, des ravitailleurs, une protection en vol, autant de missions qui pourraient être désormais le fait d'avions européens. Autre manière d'opérer une telle dissuasion avancée, baser des appareils français potentiellement porteurs de l'arme nucléaire sur des bases européennes, ce qui donnerait à la dissuasion française, a précisé le président de la République, une profondeur stratégique certaine. Emmanuel Macron a également évoqué le renforcement substantiel de l'armement dévolu à cette nouvelle dissuasion avancée. Renforcement de l'armement conventionnel, tout d'abord, avec la construction d'armements et de systèmes d'armes européens qui viendraient épauler la dissuasion française. Mais le président de la République a également annoncé une augmentation du nombre de têtes nucléaires de l'arsenal français. Actuellement, ce nombre, autour de 300 ogives, obéissait à un principe dit de suffisance. On considérait qu'avec 300 ogives, 300 bombes nucléaires, on avait suffisamment de puissance de feu pour provoquer des dommages inacceptables chez un adversaire, quel qu'il soit. Apparemment, ce n'est aujourd'hui plus le cas.
Un décryptage signé Éric Biégala. Alors la France est-elle en train de brader sa dissuasion nucléaire, comme l'affirme une partie de l'opposition à Emmanuel Macron? L'ouverture de la doctrine à plusieurs pays européens est en tout cas de nature à renforcer les critiques contre le chef de l'État. Bonsoir Nicolas Baluy.
Bonsoir.
Le refus de partager l'arsenal nucléaire français se retrouve traditionnellement à droite et à l'extrême droite.
Oui, que ce soit chez LR ou au RN, on ne se lasse pas de le rappeler. Habituellement, avant même le discours d'Emmanuel Macron, le président des Républicains, Bruno Retailleau, avait précisé la position défendue par son parti dans le journal du dimanche. La dissuasion française ne se partage pas, il allait même d'ailleurs plus loin, elle ne se concerte pas, elle ne s'élargit pas, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la notion d'intérêts vitaux. Ils ne se confondent pas avec ceux de l'Europe, d'autant qu'ils seraient variables et contingents. Je reprends là les mots du patron des Républicains. Reste que lorsque le chef de l'État affirme qu'il n'y aura aucun partage de la décision d'emploi, de la définition des intérêts vitaux et de la mise en œuvre, il rassure et il rassure de potentiels successeurs. Résultat, aujourd'hui, eh bien, ce soir, les premières réactions, il y en a peu et elles semblent plutôt positives. Ainsi, le député de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thierriot, membre de la commission défense à l'Assemblée, le concept nouveau de dissuasion avancée est intéressant, écrit-il sur X. Il offre une palette plus large à notre grammaire stratégique et est de nature à rassurer nos alliés sans renoncer à notre doctrine. À l'extrême droite, à l'instant, le Rassemblement national vient de réagir via un communiqué. Marine Le Pen et Jordan Bardella disent prendre acte du discours d'Emmanuel Macron. Mais plusieurs questions se posent, disent-ils. La dispersion géographique des moyens nucléaires ne serait que de la communication politique, car sans intérêt, les deux leaders du RN disent ne pas percevoir l'objet d'une dissuasion avancée.
Nicolas Baluy, service politique de France Culture. Cela fait plus de 8 heures maintenant que la Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibéré dans le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. 4 hommes sont rejugés. Il y a tout d'abord Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, deux proches du djihadiste tchétchène Abdoulak Anzorov qui avait décapité le professeur en octobre 2020. Ils avaient été condamnés en première instance à 16 ans de réclusion. Les deux autres accusés sont Brahim Chnina, le père d'une collégienne, et Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste, condamné respectivement à 13 et 15 ans de réclusion lors du premier procès. Nous sommes avec Florence Turm en direct du Palais de Justice de l'île de la Cité à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Florence, les 4 hommes ont pris une dernière fois la parole ce matin.
Oui, ils se sont levés les uns après les autres, les deux amis de l'assassin. D'abord, eux qui avaient été condamnés pour complicité. Je voulais m'adresser à la famille de Samuel Paty, commence Naïm Boudaoud. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. Je ne connaissais pas le projet d'Anzorov. J'étais un jeune de 18 ans, certes un peu naïf, mais je ne suis pas un criminel terroriste. D'une phrase, Azim Epsirkanov affirme également qu'il est innocent, malheureux pour la famille Paty et tous les professeurs. C'est aussi vers les proches de la victime que Brahim Chnina se tourne en premier. « Je voulais défendre ma fille », explique le père de la jeune collégienne à l'origine du mensonge sur le cours de Samuel Paty. « Mon amour pour elle m'a aveuglé, je m'en veux tellement, je ne pouvais pas savoir que ça allait finir comme ça. » Brahim Chnina, qui se déclare anéanti par les réquisitions, 20 ans de réclusion criminelle demandée à l'encontre de ces deux hommes que l'accusation a dépeint comme à l'origine du mal. Et peut-on, eux qui ont déclenché la campagne de haine sur les réseaux sociaux, peut-on interpréter leurs actes comme une association de malfaiteurs terroristes? C'est bien tout l'enjeu judiciaire de ce procès. En première instance, la cour d'assises avait estimé que oui. Samedi, la défense d'Abdelhakim Sefrioui a encore plaidé l'acquittement. Pas de crime, pas de délit sans intention. Ce matin, le prédicateur islamiste aura été le dernier à prendre la parole, à répéter lui aussi son innocence. Je vomis de tout mon être ce crime abominable, cet assassinat de M. Paty.
Florence Turme depuis la cour d'assises spéciale de Paris avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Le verdict est attendu en début de soirée. Dans l'actualité économique, ce sauvetage douloureux pour les papeteries de Condat en Dordogne. Le repreneur, le groupe français CPSPB, ne va conserver que 21 des 196 salariés actuels. Les autres seront licenciés. L'effectif de la papeterie avait déjà été réduit de moitié lors d'un autre plan social en 2023. Le groupe SPB prévoit une reconversion industrielle du site de Condat. Un mot du temps demain, du soleil sur la plupart des régions, mais encore des nuages autour du golfe du Lion avec de petites pluies sur le Languedoc-Roussillon. Les températures minimales iront de 1 à 12 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, toujours la douceur, entre 13 et 18 degrés au nord, de 15 à 20 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Grégory Wallon.